Salut les marques et salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, on résume et on analyse les émissions de la WWE et compagnie. C'est ici qu'on parle catch. Je suis Ringside et je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition du gros pré-show. C'est le grand retour du gros pré-show. Car ça y est, c'est fait. À Catch Up, on a reçu les plus grands, Jean Brassard, Tristan Archer et même, désormais, Christophe Ajus. C'est l'heure de la révolution de l'expansion. Sous les recommandations du cabinet de conseil Matt Kinsley, nous vous proposons un tout nouveau concept. On va parler de l'actu, on va vous parler du passé, et on va vous donner le programme et nos pronostics pour le prochain Premium Live Event de la WWE, WrestleMania Backlash. Et oui, c'est tout ça, le gros pré-show. C'est un peu comme les rebuts du catch, mais en français. Et évidemment, pour m'accompagner dans cette nouvelle aventure, parce que je ne suis pas seul. En tout premier, la force tranquille de Catch Up, ce bon vieux papy. Comment ça va, papy?
Bonjour, mes enfants, bonjour, Ringside. Alors, c'est bien, tu dis les rebuts, tu commences par moi, quoi. Ça fait plaisir.
Eh oui, toujours. Écoute, je suis très content de te retrouver, papy.
Mais moi aussi.
Mais évidemment, tu n'es pas seul. Hein, on a une belle brochette de chroniqueurs aujourd'hui. De rebuts. L'inévitable tonton est là. Toujours sur un petit nuage, la tête dans les étoiles, après nous avoir offert 1h30 de discussion avec monsieur Christophe Ajus. Comment ça va, tonton?
Salut l'ignoble Ringside, salut papy, salut le patron, je spoil, et salut le peuple.
Non,
le
spoiler.
Mais si, je spoil à mort, ça me fait trop plaisir d'avoir une émission avec le patron, il m'a manqué depuis mercredi. Wouh! Eh bah écoute, je suis ravi Ringside d'être avec, qu'on soit tous les quatre là, et pour faire ce gros pré-show, le retour du gros pré-show, sous ton impulsion, et ça me fait bien plaisir que tu nous fasses une Lio Rush. Et que ça y est, your comeback. Et ça, c'est bien cool, c'est une belle nouvelle.
Eh oui, mon grand retour. Je vous ai pas fait le I'm back comme font les gonzesses. Mais bon, comme vous l'avez compris, il y a un nouvel invité, il est là, évidemment, pour surveiller les travaux finis. Je suis extrêmement heureux de retrouver ce bon vieux Yerem, parce que ça fait bien 3 ans qu'on n'a pas partagé l'antenne ensemble. Le patron, Yerem, comment ça va, Yerem?
Ah, ça allait bien, mais là, de t'entendre, d'entendre ta belle voix là au micro, dans mes oreilles, ça fait encore plus plaisir, je me sens mieux. Ringside, bah écoute, ça fait plaisir de te retrouver, et quel meilleur endroit de se retrouver que dans le gros pré-show avec Ringside aux commandes. Je sens qu'on va se régaler.
Eh oui, buffet garni pour le gros pré-show. Quand ça va pas, un petit coup de Ringside, et ça va mieux, pensez-y. On va rentrer dans le vif du sujet. Parce que on va parler des news, hein, pour commencer. Mais la plus grosse news, évidemment, la dernière info qui fait grand bruit, c'est Yerem qui va nous l'annoncer. C'est le plus gros événement de la semaine, la création du concours officiel de prono de catch-up. Dis-nous tout, Yerem.
Et oui, ça y est, enfin, on officialise le concours de prono. Alors, vous savez, hein, chers auditeurs et auditrices, c'était souvent sous l'impulsion de Ringside et même Tonton, on balançait à chaque fois avant chaque pay-per-view sur le topic prono du Discord de Catch-Up, on balançait la liste, la carte de chaque pay-per-view et on invitait nos auditeurs à nous balancer leurs pronos. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passait quand on avait gagné ou perdu? Il se passait quoi? Il se passait rien du tout.
Une honte.
Donc chacun rentrait chez soi avec son plaisir ou son déplaisir d'avoir gagné ou d'avoir perdu. Si tu faisais un perfect, tant mieux pour toi. Merci, au revoir. Et ben là, c'est le retour des vrais pronos officiels. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver une petite plateforme bien foutue. Avant, ce qu'on faisait, on est sur les cahiers du catch. On avait des pronostics. Des championnats de pronostics avec un magnifique module, mais les cahiers du catch, ça n'existe plus maintenant. C'est les archives, c'est l'ancien temps, l'ancien monde, là c'est le nouveau monde. Et du coup, j'ai trouvé
un nouveau monde.
Site, c'est le nouveau monde. Alors je vous donne l'adresse directement, mais vous la retrouverez évidemment sur notre Twitter et sur notre Discord. L'adresse est très simple, c'est kicktip, alors kicktip.fr/catchup, kicktip.fr/catchup. Vous y allez.
On va dire dans les promos de fin de review, ça.
Kick-tip.
Kick-tip. Hop.
Sinon, si vous n'avez pas compris, il suffit de cliquer. Vous allez sur le Twitter.
C'est le merveilleux monde moderne, ça.
Ouais.
Et vous trouverez, c'est très simple, c'est un site très très clair.
Oui.
Je vous ai pondu tout simplement une saison. Alors ça fonctionne en saison, donc il y aura la saison la 2022-2023 qui va commencer avec ce pay-per-view dont tu as parlé, Ringside Backlash, qui va être le coup d'envoi de ce championnat de pronostics, qui va donc comprendre tous les pay-per-views de l'année jusqu'à WrestleMania, qui sera évidemment le plus grand, la finale un petit peu de ce challenge, de ce championnat. Et puis, voilà, on a descendu la carte qui, à l'heure actuelle, il y a 6 matchs. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Vous y allez, vous pronostiquez. Alors, c'est très simple. Je balance très rapidement comment ça fonctionne. Pour chaque match, on peut choisir, désigner un vainqueur, mais aussi nul ou autre. OK ? Ça, c'est, ça descend de, on faisait comme ça à l'époque des cahiers du catch. Mmh. Par exemple, si vous avez un petit double décompte à l'extérieur, il n'y a pas de vainqueur. Et bah, paf, ça, c'est nul ou autre. Ou si, par exemple, dans un ladder match, un Money in the Bank, un entrant mystère, un participant, Edge qui attaque Sami Zayn et qui lui pique sa place, Edge, il gagne, pof, et il fallait voter nul ou autre. Donc, voilà, ça n'arrive pas souvent, mais au moins, vous avez cette option. Pour le nombre de points, c'est très simple, c'est 2 points par match, sauf quand il y a plus que 2 adversaires, 2 combattants. Par exemple, une triple frite, on rajoute un et ça fait 3 points. Pour un Fatal 4-Way, on rajoute 1 et ça fait 4 points, jusqu'à 10 points maximum, par exemple pour un Royal Rumble. Si vous devinez le gagnant du Royal Rumble, et ça c'est pas toujours facile, vous gagnez 10 points. Voilà, c'est très simple, c'est très clair, juste pour vous dire qu'est-ce qu'il y a à gagner à la clé. Et bien tout simplement, il y aura 2 championnats, 2 ceintures mises en jeu, un titre mineur et un titre majeur, avec tout simplement les 2 champions qui seront couronnés là, à la sortie de ce premier pay-per-view. Et puis, il sera sûrement un winner takes all. D'ailleurs, pour le premier pay-per-view, le gagnant va sûrement remporter les 2 ceintures. Et après, elles seront défendues à chaque pay-per-view. Mais ça, on vous en reparlera après, une fois qu'on aura les résultats qui tomberont donc très rapidement, juste après le pay-per-view. Attention, pour l'instant, vous pourrez pronostiquer jusqu'à dimanche 23h. Hein. Après 23h, c'est finito, terminado, on ne peut plus voter. Donc voilà, rendez-vous sur kicktip.fr/catchup. Pour le lancement et devenir peut-être demain le futur champion des pronostics de catch-up.
Voilà, l'annonce est faite.
Bravo. Énorme, énorme. Ça, c'est une grande nouvelle, une belle nouvelle. On vous gâte, peuple de catch-up, chers auditrices et auditeurs. Vous avez une semaine de fou. On en a parlé pendant la review de Monday Night Raw avec le patron. Mais là, on a fait une semaine digne de la semaine de WrestleMania. 3 semaines après WrestleMania. Voilà. Alors donc là, franchement, là, c'est que du lourd. Allez, écoutez, là, tout ce qu'il y a en ligne, là, vous avez un contenu mais phénoménal. Et là, on rajoute le gros pré-show du ringside. Ça va exploser les compteurs.
Et ouais, interview de Christophe Ajus par...
autre chose
ton, too, y avait... too much.
Ouais, excuse-moi, je pense juste à ça parce que ça vient de me traverser le truc, là. traverser le cerveau. Vous pouvez nous retrouver parce que comme le patron a parlé pas mal des promos, etc., etc., on est aussi dorénavant disponible sur une nouvelle plateforme depuis mardi dernier, puisqu'on est disponible sur Clapping TV, qui est un site qui recense tous les talk shows et les émissions sportives exclusivement consacrées au sport. Et quand Catch Up, par exemple, sera en direct ou en première sur telle ou telle chose sur YouTube, et ben vous aurez sur la page d'accueil le show qui apparaîtra, qui sera en direct. Vous avez sinon la possibilité dans la barre de recherche de taper catch up et vous avez le lien qui vous emmène avec notre bannière, notre logoman, notre John Godzina, et qui vous emmène directement sur la page de YouTube. Et sinon vous avez le choix aussi d'accéder à nos 3 réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Voilà, je suis complet. Clapping TV, hashtag Clapping TV.
Clapping TV, le nouvel endroit pour écouter Catch Up. Et donc, comme je disais, ta fabuleuse interview de Christophe Ajus est en ligne depuis le début de la semaine. La review du show de Paris, je crois que c'est tombé hier.
Si 15 minutes, il y a 15 minutes.
Il y a 15 minutes, à l'heure où on enregistre.
15 minutes, à l'heure où on enregistre.
Voilà.
Elle exactement. Est déjà partagée sur Twitter, elle est déjà partagée partout dans le monde entier.
Une review de Raw, évidemment, classico, IRM et Tonton aux commandes. C'est déjà pas mal, sans compter tout ce qui va tomber à l'avenir.
Comptoir du catch avec le Raphaël.
Comptoir du catch sur tous les champions NXT. Voilà ce qu'il faut écouter.
Eh oui, non mais c'est
clair. Quoi faire. Et tout ça pour combien ?
Totalement gratos !
Voilà. Mais bon, on n'est pas venu que pour faire de la pub. Tant de passer au vif du sujet, on va faire le tour.
Oh, c'est créatif, là.
Ouais. Manquerait plus qu'une page de pub, toi, à ce moment-là. les nouvelles neuves du monde du catch. En fait, on va faire un petit tour du monde du catch. On va parler d'un petit peu tout. Que ce soit la WWE, la EW, la New Japan. On va aller au Japon un petit peu. C'est une première. J'ai pas encore fait le tour de toute l'actu. J'ai pas tout vu. Je suis pas à jour de tout. Mais voilà, on va se centrer un petit peu sur ce qui tourne autour de la des grosses fédés. Et on vous en dira plus dans le détail dans les prochaines émissions. Donc, les petites informations qui tournent ces derniers temps, donc c'est évidemment toujours les mécontents de la WWE, avec notamment cette annonce que Roderick Strong, l'ancien champion Cruiserweight, le petit gars d'NXT, l'ancien membre d'une disputée d'Era, ancien champion Ring of Honor, ancien tout ce que vous voulez, il aurait demandé à plusieurs reprises la rupture de son contrat avec la WWE. Il est frustré de son utilisation, notamment on lui avait proposé de changer de nom, il a pas trop voulu. Quand on lui a proposé le nouveau gimmick là de Goldmine, c'est comme ça que ça s'appelle, c'était pas du tout avec les mêmes personnes que celles avec lesquelles il travaille aujourd'hui, puisque les trois quarts ont été virés. voilà, il veut retrouver sa femme à la All Elite Wrestling. Voilà, Roderick Strong mécontent et qu'il l'aurait fait savoir, mais pour l'instant la WWE préfère le garder et le faire souffrir un petit peu. Vous avez un petit avis là-dessus, les copains?
Qui veut prendre j'ai un avis. J'ai envie qu'il s'en aille parce qu'il me rend triste, ce mec. Il me rend triste. Roderick Strong, c'est le mec le plus triste du monde à la WWE. À chaque fois qu'il apparaît, mais il est vide, vide. Et donc, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles je n'arrive plus à suivre chaque semaine,
oui,
parce que ce mec, voilà, il absorbe complètement, quoi. Roderick Strong, il a l'air triste, et donc j'imagine que s'il a aussi l'air autant triste à l'écran, mais alors backstage, c'est la grosse déprime. Moi je dis, si vraiment il veut se barrer, il prend ses couilles, peut-être, voilà, il se barre. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait chier, là. Un contrat, ouais, là, ça se trompe, là.
Bah oui, voilà, c'est le mec, c'est le trou noir du charisme, et il vient gueuler parce que ça lui plaît pas la gimmick, quoi. Mais mon gars, si t'étais capable de faire une gimmick toi-même, ça serait longtemps que t'en auras une belle, quoi, au lieu d'être effectivement le dépressif du coin, là.
Vous avez compris, hein, il va pas trouver du réconfort en nous écoutant, hein, Roderick.
Voilà, Roderick Strong, ferme ta gueule et va bosser. Tonton, peut-être un
point Roderick, de Roderick Wick, ouais, il était temps qu'il parte, quoi. Non, voilà, juste le trou noir du charisme, j'ai trouvé cette expression excellente. mais c'est à peu près ça, en fait. C'est un mec qui est excellent entre les cordes, hein, qui est pas, je pense pas à mésestimer de ce qu'il sait faire sur le ring, mais clairement, ça a jamais matché véritablement. J'ai même pas beaucoup d'espoir pour lui finalement sur ce qu'il va faire par la suite, quoi. Je sens pas un mec et j'espère qu'il trouvera sa voie en tout cas, mais pour la WWE, il y a aucun étonnement à ce qu'il s'en aille.
Il sera bien à All Elite Dark. Bon, bref,
c'était Impact.
Impact, voilà, qui retourne à la Ring of Honor. Il ferait même pas un bon manager de la WWE, puisqu'il a pas le micro.
Ah bah non, il me rappelle un peu Tommy Dreamer, là. Il lui manque juste le petit jogging et la barbe, puis c'est réglé, quoi.
Tommy Dreamer des temps modernes.
Après, j'imagine que vu ce qui se passe à la Weight Wrestling, ça m'étonnerait pas quand même que Adam Cole et Larry Dragons aient fait des appels du pied à leur poteau Roderick, tu vois, quoi. Donc bon.
Oui.
Ouais. Bon, alors pour aller faire une redite de ce qu'ils avaient fait à la WWE, c'est un peu ce que je trouve dommage d'ailleurs, quoi. Mais bon, après ils choisiront. Hein. Après c'est normal. Ce monsieur va se retrouver au chômage. Il a besoin de retrouver du taf. Donc vas-y, Roddy. Hein.
Ouais. Mais c'est pas le seul, puisqu'il y a une.
Ah grosse... c'est pas le seul. J'arrête.
Il est pour l'instant il n'est pas viré, hein, Roderick Strong. Il a juste demandé sa libération qui a été refusée. Vague de licenciement à NXT. C'est ça, l'autre nouvelle. Ça fait peut-être 10 jours, un truc comme ça, ou peut-être un peu plus, 2 semaines.
Oui, une grosse semaine, ouais.
Voilà. Quelques gros noms d'NXT, hein, qui ont été remerciés, notamment Dakota Kai, qui a fait une belle petite carrière au niveau du catch féminin, de la division féminine. Ce satané Dexter Lumis, qui faisait tant rêver Tonton, il prend la porte.
Bah ouais.
Harland, le gros balèze qui ressemblait au fils de Brock Lesnar, qui était déguisé en psychopathe là, aux côtés de Joe Gacy, c'est fini pour lui aussi. Le manager Malcolm Bivens, qui venait de la Ring of Honor, qui était de Damon Mines, là, justement, aux côtés de Roderick Strong, et ben, il dégage aussi. Et puis d'autres moins connus, comme Persia Pirota, Traco Anthony, Blair Baldwin.
Ça, c'est une... Persia Pirota, c'était la copine de Indy Hartwell, en fait.
D'accord.
Ouais, bah, avec le Duc.
Oui, voilà, avec le Duc. Ouais.
Ah, d'accord. Putain, ils ont tous passé à la télé vite fait, quoi. Vishkania, Mila Milani et Roselyne, Raylene Devine, pardon.
Mais t'inventes des noms, là, non? Ou...
Générateur de noms.
Parce que même les lettres ne vont pas ensemble. Ouais, Dakota Kai, est-ce qu'on y voyait un avenir à elle dans le main roster?
Oui, Dakota Kai, oui, ah bah pour moi, la Dakota Kai, même Dexter Lumis, c'est quand même dommage de se séparer de ces deux-là. En fait, ça, comme je l'avais dit sur le Discord, ce qui m'emmerde le plus avec ces noms-là, c'est qu'ils avaient des bons profils pour monter dans le main roster pour deux raisons. Un, ils feraient des parfaits mid-carders. Parce que voilà, c'est pas des champions qui ont un ego surdimensionné. Alors, peut-être qu'ils ont un ego backstage et on n'en sait rien, mais en tout cas à l'écran et dans les interviews et dans ce qui transparaît, contrairement à aux méga stars de l'indie qui ont creusé le trou de NXT, tellement ils étaient trop nombreux et qui loupaient tous leur montée au main roster parce que finalement il n'y avait pas de place pour ces gens-là parce qu'ils étaient trop c'était des main eventers. Il n'y avait plus de place dans le main event. Autant des gens comme Dakota Kai ou Dexter Lumis, pour moi, c'est parfait pour alimenter une mid-card qui est à l'agonie dans le main roster. Autant du côté féminin, on en parle suffisamment de la mid-card qui n'existe pas côté féminin, que même du côté masculin où finalement ça vivote. Donc ça, pour moi, déjà, c'est une première chose. Et surtout, en plus, Dakota Kai est un super exemple de... Ça avait l'air d'être des gens qui... accepter de se remettre en question et de relancer des nouveaux personnages. Dexter Lumis, il avait un perso assez particulier. Et Dakota Kai, elle a fait deux ou trois reboots quand même. Donc, toi, c'est pas des gens qui avaient l'air de gueuler et de pas vouloir, toi, qui rechignaient à la tâche. Donc, pour moi, c'est des pertes. Les autres noms, bon, c'est du jetable. Mais typiquement, ouais, Kai et Lumis, pour moi, c'est dommage de passer à côté.
Ouais. Ouais. Moi je mets pas les deux au même niveau. Kai, effectivement, je pense qu'on aurait pu la tenter un peu comme on tente un Ciampa ou un Butch en ce moment dans le main roster, où c'est des gars où tu sais pas trop si ça a marché, mais tu dis alors on tente quand même le coup parce que ça fait longtemps qu'ils sont en NXT, de toute façon ils ont plus rien à prouver là-bas. Et en plus ils ont été très pros, ils ont bien aidé tout le monde, donc on leur donne la chance, même si on n'est pas certain que ça ira très haut, au moins on tente le coup. Surtout que tu vois que d'autres filles qui sont montées, comme des Chelsea et Aliyah notamment, n'ont pas du tout le même niveau. Alors je pense qu'elles sont beaucoup plus jeunes par contre, ces deux filles, par rapport à Dakota qui doit avoir déjà passé les 30 ans. Bon après voilà, on voit bien que les catcheurs, ils cachent de plus en plus vieux, donc c'est pas forcément un problème. Par contre pour Dexter Lumis, je trouvais, alors quand il apparaît au début NXT, je trouvais sa gimmick bien trouvée. Et puis en fait, j'ai l'impression qu'elle a jamais décollé NXT en fait, sa gimmick. Il a fait un peu le bouffon du coup après avec Indy Hartwell et puis The Way là. Mais sinon, j'ai trouvé que ça a jamais décollé. Puis bah du coup qu'ils partent même pas en main roster, finalement, je suis pas si surpris que ça parce que je me dis le mec qui a pas réussi à NXT, c'est compliqué de faire passer en main roster derrière quoi.
C'est sûr. Il aurait été bien dans le 24/7 quand même, Dexter Lumis.
Ah oui, carrément calibré pour ça, oui.
Il aurait été un... Il aurait sûrement eu un long règne de champion à 24/7.
Oui.
Dakota Kai, moi, elle me faisait bien... Elle m'avait beaucoup impressionné du temps de l'Indy, à la progresse et tout ça. Effectivement, ils auraient pu tenter le coup quand même avec elle au main roster. Techniquement, elle avait le potentiel. Je sais pas trop ce qui les a bloqués là-dessus. Peut-être les blessures à répétition, je ne sais pas. Ou le profil qui n'est pas assez blonde. Tonton, t'as quelque chose à ajouter là-dessus? Arland,
vous avez tout dit. Arland, alors là... quasi un inconnu pour moi en fait, hein, tu vois quoi, j'ai dû le voir trois fois dans ma vie à Land. Non, ce vraiment que vous avez noté, ouais, c'est notable. Dakota Kai, moi pareil, j'étais pas un grand fan, j'avoue, mais je suis d'accord sur le principe que ça aurait été une mid-cardeuse solide dans le main roster qui pouvait accompagner en plus dans une tag team, donc pour un peu enrichir la tag team division. Donc c'est peut-être un peu dommage parce qu'elle avait fait un gros parcours quand même à NXT. Elle a passé plusieurs années là-bas. Elle a vraiment, pour le coup, elle, on peut dire que c'est une fille qui a été dans un développement complet quasiment par la WWE. Donc je trouve ça un petit peu dommage quand même. Et Même si j'étais pas fan particulièrement d'elle, mais la néo-zélandaise, pour moi, elle aurait mérité un ticket dans le main roster pour au moins voir, quoi. Voilà. Allez, comme au poker, on voit. Et puis, par contre, Dexter Lumis, bah oui, ringside hein, d'entrée, tu l'as noté dès ton introduction. Clairement, alors là, moi, ça m'a fait bien chier, quoi. Voilà, moi, c'est un catcher que j'aime beaucoup, que j'avais découvert à la TNA, que vraiment je pensais qu'ils allaient réussir à faire quelque chose avec lui. Il y avait des trucs, il avait des petits talents cachés comme ça, le fait de savoir décider, le fait de pour moi il y avait tout un univers autour de lui qui était intéressant, et même pour une fois des histoires de mariage, de couple avec Eddie Hartwell, etc., bah, ça avait plutôt bien fonctionné dans le cadre de toute la storyline avec les Gargano et compagnie. Donc pour moi c'était un personnage qui avait moyen. Il a eu 2-3 gros matchs à TakeOver, mais voilà, ça n'a pas été plus loin et finalement il dégage. Bah ouais. C'est un petit peu triste, j'aurais aimé voir un petit peu pareil, un petit ticket. Alors du côté masculin, c'est compliqué parce que c'est beaucoup plus rempli les divisions, qu'elles soient tag team ou solo, que chez les filles. Donc pour Dexter Lumis, de toute façon, se faire sa place, si c'est pour faire des voilà, terminer dans le 24-7 comme tu l'as dit, ça aurait été un peu triste. Je sais pas du tout le genre de gimmick en plus dans le 24-7. Bon, si, ça aurait pu être rigolo une ou deux fois, mais sur le long terme, au secours, mon Dexter.
Si, moi je le voyais bien courir après Akira Tozawa, lui faire peur comme ça en sortant de l'ombre. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Bon, restons à NXT. Le reste de la charrette, une histoire un peu plus sordide. La moitié des MSK, je crois que c'est le blanc, je n'ai pas son nom, qui a été licencié suite à des accusations de violence conjugale. Voilà, donc les MSK, c'est fini. Hein, je crois qu'ils ont rendu la ceinture. Il y a de nouveaux champions maintenant. Est-ce que quelqu'un saura me dire qui sont les champions tag team à l'heure actuelle ?
Les Pretty Deadly.
Ah ouais, Pretty Deadly. Alors oui, ils viennent d'NXT UK. Ah ouais, ils sont à chier. Hein.
Ouais, bah, ils ont raflé la mise dès leur arrivée. Hein.
Ouais. Ils jouent des beaux gosses. Un peu androgyne comme ça.
Nash Carter, c'est le nom du catcheur que tu cherchais.
Nash Carter, bien joué, patron.
L'antenne.
Je l'avais le nom et je l'ai perdu, patron.
Ouais. Si vous écoutez nos weekly, peuple de catch-up, on en avait déjà parlé. Et d'ailleurs, on en avait parlé, je crois, que parce que les problèmes avaient commencé dès NXT Stand and Deliver, hein, mine
bah, de dans rien. Dans la foulée, c'est le week-end, hein, en fait. Ouais. Il s'est fait hashtag MeToo, le mec.
Ouais, parce que nous, Mr. Ringside, ça fait 5 mois qu'on est au Turvin, tu vois, donc du coup, on a quelques infos aussi, quoi, au passage, quoi, parce que tu vois, on est, maintenant, comme dirait, on est, comme on a dit avec IRM pendant Hero, on a dit, oui, on est dans le secret des dieux, donc attention, on a des infos, mais c'est du chaud de chez chaud, quoi. Donc Destiny Deliver, tu vois, l'ami Carter, et puis c'est grave, hein, les accusations qu'il y a contre lui, hein. C'est pas des trucs, c'est pas de la rigolade, quoi. Et donc lui, il était dans le viseur, hein, déjà. Donc ça m'étonne pas d'ailleurs, te connaissant d'ailleurs le ringside, ça m'étonne pas en fait que t'avais repéré aussi ce truc, parce que c'est assez sordide, quoi.
C'est vrai. Est-ce que c'est pire que Johnny Depp ? C'est ça ma question.
Bah, il a pas fait caca dans le lit de sa copine, lui.
Bon.
Voilà.
Alors c'est pas si grave. Ouais, bon bah voilà, hein, bon débarras, et puis ben c'est dommage pour son compatriote.
Ouais, bah c'est surtout ça. Et puis là, ça prouvait juste quand même que les mecs, parce que au final, techniquement, on n'a pas eu le fin mot de l'histoire. C'est pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est parole contre parole entre monsieur et madame. Mais là, clairement, tu vois que la politique de la WWE et encore plus à NXT, c'est on prend zéro risque. Le mec est pas assez valuable. Il a pas assez de valeur pour prendre le risque. Peut-être le mec en fait était coupable et donc peut-être ils allaient avoir encore plus d'ennuis. Donc voilà, une fois de plus il paye ça. Les mecs voilà comme d'autres avant lui. Souvent avant ils essayaient de voir un petit peu mettre les mecs de côté. Comme on a vu d'autres cas avec Velveteen Dream notamment parce que les mecs avaient beaucoup investi.
Il était blanchi. Pour le coup.
Dream, bah oui, ouais, bah ouais.
Mais
ouais.
Pour le coup, Dream, il a été. Mais c'est ça, en fait, le truc,
alors
c'est
lui,
que.
Lui, il est grillé.
Ah, bah lui, il est grillé, mais c'est fou, hein, parce que et même dans l'indie,
c'est
apparemment.
C'est le double tranchant du truc, ouais. Même dans l'indie, ils en veulent pas, quoi.
Ah, ouais, apparemment, c'est terrible pour lui. Moi, franchement, je trouve que c'est terrible pour ce garçon, parce que là, il a été blanchi devant la justice. Et il n'arrive même pas à retrouver des bookings en indie, quoi. Et c'est assez, quand même, je pense que nous, à Catch Up, on en a beaucoup parlé de Velvet in Dream, hein, du temps des NXT TakeOver de Feu de Dieu.
Énorme espoir.
Et c'est, ouais, c'était un énorme espoir, clairement. Et c'était la breakout star, quoi. Et c'est assez dommageable. Ce qui se passe avec Carter a l'air d'être c'est un peu une autre nature, quoi. Et puis il y a eu vraiment des témoignages en plus vraiment assez certifiés, etc., etc. Enfin, ça, de ce que moi j'ai lu en plus assez dernièrement, ça va très très mal quand même, hein, pour l'ex. Donc, mais moi je pense effectivement comme vous à l'autre pote de la tag team et qui doit être quand même vachement dégoûté parce que lui, tout seul en solo, bah franchement, ça va être compliqué.
Ça pas loupé, il s'est roulé dessus, hein, il job là, donc.
Il job là déjà là.
Ah ouais, ça y est, parti pour jobber. Ok, ouais. Terminé.
Ah ouais, j'ai pas regardé le dernier.
On le retrouve dans la prochaine charrette.
Ah ouais. Ouais, c'est terrible pour lui,
dur,
quoi.
Dur le monde du catch. Wesley, voilà. Je le connaissais sous le nom de Desmond Xavier. J'ai jamais réussi à mémoriser leur nom aux deux MSK. Voilà que c'était pas très utile au final. Un peu plus cocasse. Coupure de courant pendant AEW Dark Elevation. Deux matchs, Max Caster contre Cheeseburger. Alors, je ne savais pas que Cheeseburger était à la All Elite Wrestling. Et Nyla Rose versus Sky Blue, la coupure de courant, la lumière s'éteint pendant les matchs. Et il y a un match qui ne sera jamais diffusé entre Nyla Rose et Sky Blue. Ils ont annoncé que c'était un match spécial.
Ça, c'est bien pour le téléspectateur, ça, du coup.
Voilà, heureusement que ce n'est pas diffusé en direct. Après, c'est le principe de Dark, hein, finalement, des matchs Dark, hein, c'est de tester la technique.
Aussi, il y a eu du vandalisme. Noir. Ils se sont fait couper, ils étaient chez Free, ils se sont fait couper la fibre, là, du vandalisme.
C'est ça. C'est pas, hein, c'est, voilà, c'est cocasse, ça arrive de temps en temps, une coupure de courant. Plus grave, Stu Grayson, du Dark Order, quitte la All Elite Wrestling. Ils n'ont pas trouvé d'accord sur le pognon pour le renouvellement de son contrat. Tonton, toi qui est plus à même de la All Elite Wrestling, ça te fend le cœur le départ de Stu Grayson?
Là, je n'irai vraiment pas jusque là. J'aimais bien, hein, j'aimais bien ce catcheur. Il faisait partie des Originals, quoi. Il était dans le Dark Order dès le départ avec Evil Uno. Ils étaient même les deux hommes de main, en fait,
Super Smash Bros.
Voilà. Ouais, exactement, et c'était sympa, c'est une tag team très sympa, Stu Grayson et Evil Uno. Et donc c'est un petit peu triste tout de même, moi je suis pas trop inquiet, je pense que Stu Grayson il va rebondir ailleurs. C'est un peu dommage là pour le coup, que je trouve que c'est des histoires d'argent. Et après, si on dit la réalité, Stu Grayson il catchait surtout énormément à Dark. Il a pas catché, je pense, à Dynamite depuis très longtemps. Et à part peut-être des apparitions dans quelques bagarres générales, mais sinon, sorti de ça, voilà, le Dark Order est quand même largement à la peine depuis la fin de l'année 2021. Il existe que un peu grâce à Eggman Page qui fait quelques petits rappels et tout ça, mais il n'y a plus de leader vraiment. Ils font surtout des segments backstage, participent à des gros matchs collectifs comme ils aiment bien faire à la Elite Wrestling, et ça va pas plus loin. Donc si tu veux, ça sera pas une perte terrible. Stu Grayson en soi, c'est un mid-carder qui vient de s'en aller, quoi.
Mais est-ce que c'est pas un peu le destin de tous les mid-carder originals de l'AEW, qui du coup, quand la fédération a commencé à grossir, ont vu leur temps d'antenne rétrécir, et puis qui, du coup, maintenant se retrouvent un petit peu en fin de contrat, et puis est-ce que c'est pas le premier en deux mecs qui étaient là dès le début, puis qui finalement n'apparaissait plus du tout, et puis qui part un peu par la petite porte, j'ai envie de dire, mais ce qui est logique, hein, la fédération maintenant elle a tellement de talent que des mecs comme ça ils trouvent plus leur place, non?
Ouais,
c'est clair que le roster est quand même mouse costaud à la All Elite Wrestling et il faut caser tout le monde. Et quand tu sais que, quand même, comment la Tag Team Division est monstrueuse et qu'ils arrivent à faire quand même catcher énormément de monde à ce niveau-là, mais après, c'est sûr que dès que tu arrives en solo, ça commence à se resserrer. Il y a un titre intermédiaire comme à la WWE, mais c'est pas organisé de la même manière, que ce soit avec Rampage ou avec Dynamite. Donc pour les mid-carders, c'est très compliqué parce que tu catches à Dark Elevation, à Dark, etc. Au pire, tu vas aller faire une pige à la Ring of Honor, toujours en général dans le cadre de combats collectifs, des Rumble, des choses comme ça, des Battle Royale. Mais quand il faut passer à Rampage, et à Rampage c'est encore plus dur, hein, parce que Rampage ça dure que 52 minutes. Hein. Alors Dynamite, on n'en parle pas, quoi. Dynamite, ces catcheurs-là, ils n'ont pas le temps d'antenne pour passer, pour briller, quoi. C'est pas possible. Et tu l'as bien dit, papy, hein. Il y a eu une vague d'arrivée de main eventers, il faut dire des main eventers, énormes. Et il a fallu faire de la place pour ces mecs-là et leur trouver des storylines, et tu vois. Et donc, je pense que c'est pas le premier d'ailleurs, et ça sera pas le dernier Stu Grayson à s'en aller de la All Elite Wrestling bientôt.
Eh ben, peut-être qu'il va pouvoir retrouver un nouveau job dans la la nouvelle fédération qui va peut-être se créer, du moins qui est annoncée par Freddie Prinze Jr. Alors, souvenez-vous de Freddie Prinze Jr., c'est un acteur hein, des années des années 2000, il jouait dans Scooby-Doo, etc. Et surtout, il était venu bosser à la WWE, à la production, par deux fois. Et il annonce que suite au tournage de son dernier film, au dernier cachet qu'il a rentré, eh ben, il a les moyens de lancer une nouvelle fédération de catch qui pourra ne pas être viable pendant deux, voire trois ans. Parce qu'il a, il a joué des intermédiaires pour un ami pour créer une fédération. Alors, je ne sais pas si on parle de Tony Khan dans cette histoire. Mais du coup, ça, lui, ça l'a un peu titillé. Il se rend compte qu'il a les moyens de lancer sa propre fédération et donc il va la lancer. Une fédération de plus. Alors, il a les contacts. Hein, il pourra peut-être avoir un contrat télé, etc., etc. En tout cas, l'avenir toujours aussi radieux pour le monde du catch avec une nouvelle fédération qui se prépare. Est-ce que ça vous intéresse, vous, une fédération de plus, Papy, par exemple?
Bah, ça dépendra de ce qu'il y a dedans. Après, je, Freddie Prinze Jr. Alors, lui, pour le coup, on peut pas dire que c'est un mec qui vient, comment dire, qui vient s'incruster dans le truc parce qu'il est mordu de catch depuis longtemps. On le voit à peu près tout le temps, notamment à WWE. Il avait pas été booker aussi à une époque.
Il était dans la storyline, je sais pas. Alors, il a dit qu'il était vraiment très mauvais pour booker, donc, ce sera pas lui qui s'occupera de ça, mais, il va s'occuper de la production et de gérer toute la partie financière, on va dire.
Voilà, donc du coup, bah, s'il a encore quelques contacts dans le milieu, notamment du cinéma, je sais pas, ça pourrait effectivement permettre de financer un peu le tout. Bah, déjà, il y a, alors, à un autre niveau, il y avait un niveau plus haut plutôt, je veux dire, il y a notamment des femmes d'Hollywood qui ont créé un club de foot, je sais, avec Nathalie Portman, si je dis pas de bêtises. Bah, là, ça serait marrant si lui arrivait à réunir deux, trois. Alors ça serait plutôt des has-been, j'ai envie de dire, pour le pauvre Freddie Prinze, parce que ça fait un bout de temps qu'il fait plus des têtes d'affiches au cinéma. Mais quelques madame, c'était, il était marié avec Sarah Michelle Gellar, non?
Ouais, toujours, un couple heureux. Hein.
Toujours. Voilà, donc s'il peut ramener deux trois comme ça là, qui deux trois connaissances pour avoir un peu d'argent et mettre et lancer un truc qui tient la route, ça pourrait être marrant. Je miserai pas. Moi personnellement, je mettrai, donnerai pas mon argent à Freddie Prinze Jr. On va voir s'il me donne tort.
Eh ben, il ne l'accepterait pas. Voilà, telle Valérie Pécresse n'a pas accepté l'argent de notre ancien président. N'accepterait pas ton argent. Il peut faire un espèce de. Pourquoi il faut pas une fédération Hollywood All Stars là avec Macaulay Culkin aussi là, tous ces has-been d'Hollywood là qui sont des fans de catch qu'on voyait souvent dans les années 2000 là dans les qui étaient ringside. Il y avait beaucoup d'acteurs comme ça de télé ou d'Hollywood de l'époque. Macaulay Culkin, voilà, typiquement le mec c'est un gros fan aussi, toi. Je crois qu'on le voit, on l'a peut-être déjà vu, c'est la IDO, mais c'est pareil, on le voyait souvent dans le public. Il a un podcast où il parle de catch aussi, d'ailleurs. Donc, pourquoi pas, mais faut trouver, c'est pareil, hein, il faut trouver un angle, il faut trouver une formule, il faut trouver un concept. S'il nous trouve un concept, je sais pas, moi, si tu suis la création de nouvelles stars ou, je sais pas, t'as un format hyper court.
Ouais, cinématique, un peu comme
Carrément.
Le truc de tonton, là, comment ça s'appelait, là. La Lucha Underground.
La Lucha Underground.
Par exemple. Ouais. Ah, oui. Ça, là, d'accord, là, ça attirerait ma curiosité.
Ouais, ou peut-être un côté plus télé-réalité. La manière de l'UFC ou des trucs comme ça. Faudrait un nouvel angle d'attaque.
Ah, oui.
Refaire un truc à la manière de la WWE, franchement, on va saturer, je pense. Dynamite a déjà montré ses limites à ce niveau. Moi, je serais vraiment plus pour un truc un peu différent. Une autre vision, un autre angle d'attaque. Moi, j'aimais beaucoup quand ils avaient fait sur le network là, quand ils suivaient les gars d'NXT. Je sais plus comment ça s'appelait là.
Breaking Ground.
Breaking Ground, voilà.
C'est génial ça. Ça d'ailleurs, on en avait parlé. Je me souviens qu'on avait fait la review du premier NXT 2.0. On s'était dit, voilà, ils pourraient essayer de revenir à ces bases-là, de vraiment nous montrer, c'est des jeunes, donc les voir évoluer, leurs bons moments, leurs mauvais moments. Donc, ouais, le côté très télé-réalité, pour un has-been d'Hollywood, il doit connaître, quoi.
Ouais. Donc, voilà, on verra. Hein. En tout cas, ça marche bien pour le monde du catch. Hein, la WWE, là, le premier trimestre, ils ont encore battu des records hein, de pognon dans tous les sens. Ça fonctionne vraiment bien hein. Même du côté de la All Elite Wrestling, l'audimat est au beau fixe. Petit tour d'horizon rapide du monde du catch. On va un peu vous parler un petit peu de ce qui se passe dans les autres fédérations. On va revenir à NXT. Hein. On s'est pas trop éloigné d'NXT. Qu'est-ce qui se passe à NXT?
Excusez-moi, j'ai fait une sieste, mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas enchaîné sur ce que t'as dit sur le bilan financier de la WWE, parce que j'ai les chiffres de ça. Je m'étais dit que ça t'intéresserait. Donc écoutez, c'est facile. La WWE, effectivement, enregistre de nouveaux records pour 2022. 333,4 millions. Hein. Bon, je sais même pas si je vais dire les virgules. 33,4 millions de dollars de revenus, plus 27%. 92,4 millions de dollars de bénéfices d'exploitation, ce qui est, et ça c'est gros, c'est très important parce que ça présente plus 42% d'augmentation, et les revenus liés aux médias, Deal TV, le network, etc., ont rapporté, attention mes amis, accrochez-vous bien, 278,1 millions de dollars. Écoutez, la WWE va bien, Vince, tu peux envoyer un chèque à notre patron.
Par ici, voilà. La monnaie.
Bah oui, c'est la fin de la pandémie, donc forcément, ça refait du pognon un peu partout, ça n'en faisait plus à une époque.
Les stands de t-shirts sont à nouveau ouverts.
Ouais, apparemment, sur toutes ces conneries-là, ça marche bien. Bon, NXT, rapidos, votre avis sur Bron Breakker, le champion, là, il est en rivalité avec Joe Gacy. Est-ce que vous avez un avis sur ce champion Bron Breakker? Est-ce qu'il est convaincant? Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre de Joe Gacy? Est-ce qu'on en a encore quelque chose à foutre de NXT?
Bah, moi, Joe Gacy, j'ai préféré son père, là, il s'appelait Andrea Gacy.
Ouais.
C'est tout, voilà. Allez, au revoir.
Au revoir, merci. Ça, malheureusement, là, cette blague, les moins de 20 ans ne comprendront pas. Ouais, je sais pas. Ça, vous regardez encore NXT, vous?
Moi, non. J'ai arrêté. Je laisse reposer un peu. J'espère m'y remettre dans les prochains mois, mais là je laisse souffler un peu. Là, ça faisait trop de show où je me force à regarder.
La dernière fois que j'ai regardé, il y avait une chinoise en pyjama qui faisait semblant de dormir dans le ring, et des filles qui faisaient semblant de pas la réveiller, je sais pas quoi. Autant dire que j'ai zappé assez rapidement. Pour moi, il y a plus d'utilité de NXT à la télé. Hein. Il faut remettre ça sur le network, et puis revenir aux vieilles versions. De toute façon, ça n'a plus aucun intérêt. Je veux dire, les gens qui passent au main roster, ils repartent à zéro, généralement. Donc, on est à zéro.
Ça peut redevenir, tu sais, une curiosité, tout comme on regardait au tout début, où tu voyais vraiment les jeunes, des jeunes se construire. C'est quand même intéressant pour les, on va dire, les spectateurs vraiment curieux de voir quelle pourrait être parmi ces 50 types, quelle pourrait être la star de demain. Que ce soit Bron Breakker autre.
Voilà, c'est toujours marrant d'avoir des. Enfin, c'est toujours bien d'avoir des. C'est rafraîchissant d'avoir des nouvelles têtes et des choses comme ça. Maintenant, le problème aussi, c'est qu'à la télé, le show, il est trop long, quoi. Une heure et demie, avec que des gens qui savent à moitié catcher, avec un booking qui est vraiment pas fantastique et des histoires qui sont vraiment. Sont encore moins bien carreaux, quoi. Donc, c'est vraiment. On est en bout de course, là, pour NXT 2.0. On reviendra voir dans 6 mois, si tout va mieux. Tonton, un petit mot sur la All Elite Wrestling. Il y a le tournoi Wenhart en ce moment, ça se passe bien, les matchs sont spectaculaires. Il y a eu FTR contre FTR, par exemple.
Ouais, ça a été un très bon match, super technique, avec plein de nostalgie, puisqu'ils ont rappelé des phases de ce qui s'était passé entre Owen Hart et Bret Hart, mais vraiment entre les cordes, quoi. Donc c'était... fallait vraiment, être... un connaisseur de ça, c'était assez. Enfin, moi, je trouvais ça génialissime. Hein, mais après, pour peut-être quelqu'un qui connaît pas forcément bien la All Elite Wrestling, et puis c'était quand même l'événement de les avoir l'un en face de l'autre. C'était, pour moi, en tout cas, la toute première fois que moi je les voyais l'un contre l'autre. Peut-être qu'un match comme ça a dû exister dans l'indie, j'en sais rien. Mais c'était particulièrement bien. Toutes ces qualifs là se passent bien, côté féminin comme masculin. Le bracket masculin, ça y est complètement full. Double or nothing, c'est pour la fin mai. Donc écoute, ça se passe plutôt pas mal. Hein. On a un champion qui reste champion, qui a un peu la pression parce que ça y est, hein, CM Punk est définitivement rentré dans la course au championnat du monde à AEW.
Ça
va
commencer, hein. Hangman Page contre CM Punk.
Ouais, exactement. Ouais. Donc là, grosse affiche avec un CM Punk qui ne fait que monter en niveau semaine après semaine depuis qu'il est arrivé, quoi, qui a battu tout le monde, qui a battu le heel ultime de la Fédé, en l'occurrence MJF. et qui continue son chemin. Voilà, jusque peut-être va-t-il l'avoir ce titre, quoi. Je le sens bien, hein, pour CM Punk, hein, personnellement. Hein, je sens la fin de règne là pour Hangman Page. On va voir. Hein, je peux me tromper, mais on va voir. Et puis après, du côté du titre secondaire, écoute, bah c'est tout simplement toujours Scorpio Sky, catcher que j'aime bien aussi, quoi, qui a repris le titre là dans un gros ladder match. Si vous l'avez vu face à Sammy Guevara, une des grosses spécialités de Sammy Guevara, les ladder match.
Ouais, mais c'est un match. On s'en fout. Parle-nous plutôt de Wardlow contre MJF.
Et Wardlow, MJF, c'est là l'une des grosses rivalités de Dynamite à l'heure actuelle, puisque donc Wardlow qui a été l'homme de main de MJF pendant plusieurs années, c'est donc désolidarisé du boss. Et depuis, bah, c'est la guerre entre eux. Donc MJF envoie tous les heals qu'il peut envoyer à Wardlow. Wardlow défonce tout le monde. Il a eu des injonctions en justice. Il arrive dorénavant menotté jusqu'au ring pour être démenotté par la sécurité. Enfin bref, c'est l'enfer sur terre. Mercredi, ça a été une boucherie absolue. En plus, il rencontre pas des petits, quoi. Hein. Il a affronté Lance Archer. Si vous écoutez un peu ce que je dis sur la Holy Wrestling, vous savez que j'aime beaucoup ce catcher aussi. Et voilà, il affronte des Golgoth un peu comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup. Ça a pas mal changé mon bon ringside par rapport à la baston du mercredi, puisque à la Holy Wrestling, il y a beaucoup plus de powerhouse que du temps de la baston du mercredi. Ça a beaucoup changé le main roster. Effectivement, même, donc ça, c'est les grosses. Et après,
il a affronté William Morrissey.
Donc il a affronté un géant là, oui. William Morrissey qui a énormément changé par rapport à ce qu'il était, le big cast de la WWE.
C'est fini le gros cul big.
Ouais, ce catcheur est transformé, quoi, c'est absolument incroyable, quoi. Steroid Man est de retour. C'était trop même. Là, il y a eu lui, il est vraiment passé à une espèce de truc là, je sais pas, j'espère qu'il aura pas de problème de santé, ce garçon. Mais sorti de ça, pour parler un peu juste que des ceintures, hein, on va parler au niveau donc le titre TNT Championship. Du côté de la tag team, bon, la tag team c'est formidable, mes amis. Que vous dire, la tag team division de la Elite Wrestling, moi je ne peux faire que sa publicité, c'est que du bonheur, quoi. Et là, les champions restent champions également, puisque Jungle Boy et le Luchasaurus sont toujours les tag team champions à E-Dub, et ça c'est bon, quoi. Et il y a de la compétition dans tous les sens, ça s'envoie dans tous les sens, hein. Ils défendent leur titre régulièrement. À Double or Nothing, on sait pas encore trop, là il y a pas mal de prétendants, donc ça va être un peu compliqué de voir quel genre de match ils vont leur proposer à Double or Nothing. Et puis du côté des femmes, je finirai avec ça, du côté des femmes on a Jet Cargill qui est donc dans une streak, hein, qui est à 31-0 il me semble, qui est donc championne TBS, donc le titre télévision pour les femmes. Et le titre principal, il est tenu par Thunder Rosa, donc une ancienne de la Raw, de la NWA, et qui a pris le titre à Britt Baker au dernier pay-per-view que j'avais revivé avec la Tao, notre bonne taloche du cage à qui je fais un big up. Mais je me souviens plus... je me souviens plus. Bon, bref, c'est pas grave. Thunder Rosa qui détient le titre et qui en ce moment est dans le show aussi un peu, quoi, parce que pareil par rapport à la baston du mercredi, l'évolution c'est quand même que dans la division féminine, il y a un roster beaucoup plus conséquent qu'auparavant. Il y a beaucoup plus de filles, beaucoup plus de compètes. C'est pas encore le niveau de la WWE. Il y a pas de problème. Hein, la WWE reste the high level, reste the big league, hein, mais ça va quand même beaucoup mieux dans la division féminine, et j'en ai fini avec la Hyde, mon ignoble ringside.
Oh, interminable. Il y en a qui regardent la All Elite Wrestling encore ici ?
Ah non, personne ne regarde, hein, c'est sûr.
c'est l'instant comédie du pré-show, là.
un gros show, justement, All Elite Wrestling contre la New Japan Forbidden Door. C'est prévu pour bientôt.
Il y a un Tanahashi versus Moxley, quoi. Enfin, ils vont être dans un tag team, quoi. Mais ça va être monstrueux. Ça va être monstrueux. Il y a un tag team match, là, mais monstrueux.
Ils ont vendu les pop pour exister, quand même. Hein.
Ouais, ils ont vendu 11 000 places. Les préventes sont sold out.
Ah ouais, quand même, ouais. Quand même.
Oui, ça marche. Au Japon, qu'est-ce qui se passe ? Le heel turn annuel. Tous les gens, un heel turn à la New Japan.
Oh.
C'est Juice Robinson qui a rejoint le Bullet Club.
Il n'était pas parti, lui ?
Eh bien, justement, il a fait croire qu'il était parti.
Aïe, aïe, aïe.
Il a trahi. Et
oh, le coquin !
Il est méchant.
Attends, Juice Robinson, faut que vous me le recasiez. C'était le gars avec les locks à NXT ?
Ouais,
Green. Ah, c'était quoi son nom ?
CJ Parker.
Ah oui, ça y est, ok, ça y est, je le remets. Ça y est. Il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé.
NXT, c'était contre lui. C'était Kevin Owens.
Il lui avait cassé
la gueule.
Dans le premier. Il n'y a plus été le même homme.
Il est passé de petit garçon à homme à partir de là.
Ouais, c'est ça. Oui, alors il a beaucoup, beaucoup évolué. Hein. New Japan, c'est un sacré...
Je suis en train de regarder une vignette, là. Effectivement, c'est plus vraiment le même mec.
Ouais, dans le
il a réussi bien au Japon, plus, je crois, lui, oui. De mémoire. Enfin, je sais pas du tout, mais...
Il a été champion US. Il a été
un peu
C'était un gros babyface. En plus, comme il a un physique quand même assez costaud, il est bien plus costaud que le reste du roster, donc il fait tout de suite très crédible. Et puis, non, franchement, il a bien bossé, très technique.
Voilà, il est plutôt jeune, donc c'est pas. Enfin, lui, c'est peut-être un gars qu'on verra dans le futur, hein, on sait pas.
Ouais. Exactement. Oui, c'est pas impossible qu'il finisse par revenir sur le sol américain. Mais bon, je pense qu'ils ont dû aligner les bifetons quand même pour le conserver. Maintenant, il fait partie du Bullet Club en plus, il va vendre plein de t-shirts. Donc je pense que ça tourne bien pour lui au Japon. J'en dirai sûrement plus sur la New Japan bientôt.
En tant que fan de la NJPW et moi en tant que fan de la weight wrestling, très franchement, les matchs qui s'annoncent là, c'est énorme quoi. Enfin pour moi, il y a presque que des dream matchs pour l'instant quoi sur les possibles, probables. Cartes qui sont annoncées quoi, mais c'est ça va être assez fantastique quoi, parce que il y a quand même, moi je connais quand même quelques catcheurs japonais, donc il y en a quand même certains que moi je suis assez curieux de revoir catcher aux États-Unis, puisque je me rappelle par exemple de Okada quand il était venu à la Ring of Honor, si tu veux j'en ai un souvenir pas dégueu quoi, tu vois, de ça. Et donc moi je suis extrêmement curieux de voir ce Forbidden Door, parce que moi je pense qu'on va avoir de la grosse qualité entre les cordes quoi. Et déjà, je sais pas si Ringside, du coup, t'as vu Suzuki, par exemple, à la AEW, où les un ou deux, il y a eu deux, trois autres Japonais comme ça qui sont venus faire quelques shots. C'était pas dégueu, quoi. Puis avec le public, ça matchait bien, quoi. Et puis avec notre bien aimé Samoa Joe, quand même, mon Inglaber Ringside.
C'est vrai, j'ai vu ce match. Distribution de claques.
Oh là 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 là, le Minoru Suzuki Samoa Joe là, mais oh la boucherie, la boucherie. Ouais.
Samoa Joe qui est redevenu donc TV champ de la Ring of Honor à l'occasion de ce match et qui est parti à mon avis pour collectionner toutes les ceintures. Je pense qu'ils vont faire, ils vont bien capitaliser sur Samoa Joe s'il se blesse pas à la All Elite Wrestling dans les semaines à venir.
Okada Danielson, ça te dit quelque chose? Bullet Club versus voilà. The Elite. Ça te dit quelque chose?
Bah oui.
Ok, peut-être un trios match avec les Young Bucks et Adam Cole contre Jay White, Teji Ishimori et El Fantasmo.
Attends, il y a Okada contre Daniel Bryan?
C'est pas, il y aurait CM Punk versus Kenta peut-être. Ça c'est des prévisions hein, de Bryan Alvarez et tout ça quoi.
Ah d'accord. Okay.
Tu vois, il y a des, alors t'aurais Orange Cassidy versus Toru Yano. T'aurais Adam Page. Alors ça, il y a soit Adam Page, il parle, soit John Moxley. Ça a l'air plutôt d'être John Moxley hein, qui tient la corde pour affronter Hiroshi Tanahashi. J'adore ce catcheur. Hiroshi, c'est un des rares catcheurs à la NJPW où vraiment je m'attarde sur des highlights. Mais il est âgé maintenant.
Oui, maintenant il est plus.
Il est âgé. Hein. Comment il s'appelait, Ace, c'est ça, ou je sais plus. Ouais, je sais plus son
nom. Ace. Oui. Bon, là, il est pété de partout maintenant.
Ah ça, ouais.
C'est dommage, mais écoute. On fera la carte dans le détail quand ça sortira, parce que ça m'intéresse relativement aussi.
Ah, tu vois quand même. Hein.
revenons vers le passé, un petit peu, maintenant qu'on a fait le tour de l'actu. Parce que moi, j'aime bien revenir sur le passé. Qu'est-ce qui se passait l'année dernière à WrestleMania Backlash, ça s'appelait déjà comme ça à l'époque. Petit tour d'horizon de la carte. On avait Sheamus, qui était champion des USA contre Ricochet. C'était en pré-show.
Et qui
hein, ça vous parle? Aucun souvenir?
Bah, je me souviens surtout de son match à WrestleMania, du coup, Sheamus, qu'il a chopé le titre face à Riddle. J'imagine que c'était ça le match. Quoi. Son match face à Ricochet de Backlash, je m'en souviens un petit peu moins.
Ouais,
c'est pré-show, donc je n'ai pas regardé moi perso, du coup.
Bah, peut-être pour ça alors.
C'est fort possible. Rhea Ripley était championne à l'époque.
Ah, oui.
Et,
oui.
Elle a battu Asuka et également Charlotte. C'était un triple threat.
Elle venait de prendre la ceinture. Ah ouais, on dit que Charlotte avait raté Mania.
Ouais. Alors c'était un show qui était devant les télés.
Oui.
Comment on appelait ça?
Dans le Thunderdome.
Thunderdome encore. Ouais.
Donc ça va pas être la meilleure séquence de l'émission, hein. Ce sera mieux dans les prochaines émissions.
C'était terrible, hein, parce qu'on était reparti au Thunderdome après Mania, ouais, où il y avait eu
après Mania, c'était.
Et donc j'ai souvenir d'un show où c'était vraiment la grosse déprime.
Quoi. Ah ouais.
La catastrophe. Rey Mysterio et Dominique Mysterio, les Mysterio Périfils, contre les Dirty Dogs.
Oui, pour le titre.
Qui était, voilà, ils ont gagné le titre.
Oui, mais c'était honteux, ça. Ils n'avaient pas gagné à WrestleMania. Mais oui. Alors qu'ils auraient pu faire ça à WrestleMania, quoi.
Ouais. Un Lumberjack match entre Damian Priest et Le Miz avec John Morrison. Est-ce que c'est pas là qu'il y avait des zombies?
Oui.
La catastrophe. Ouais, c'était décidément, pour la promotion, hein, du film. Dawn of the Dead. Ou Army of the Dead, voilà.
Une bouse.
Une merde. Alors, aussi bien le match que le film. Bianca Belair battait Bayley. Bianca Belair
était champion. J'ai aimé mon Army of the Dead.
C'est pour ça qu'on l'entendait plus. Il était en train de se dire, bah attends, moi j'ai aimé ce film.
Les mecs, ils sont en train de démonter Batista là. Non mais oh, ouais, je vais vous l'envoyer au studio. Ouais, vous allez voir un peu comment vous allez pas rigoler là.
Ouais.
Un excellent film de merde, voilà. Un excellent film de série Z qui portait bien son nom. Donc c'était parfait, quoi. La scène finale assez extraordinaire là quand même avec Batista. Voilà, Batista qui meurt, ça fait toujours quelque chose.
Bah bravo, t'as spoilé la fin.
Ah, bravo, c'est la fin. Alors...
Ah ouais, parce que moi,
j'allais le voir et du coup, j'annule.
J'allais regarder la fin, là. Et...
Non, regardez bien, il manque des pixels à un moment donné à la caméra. Bianca Belair, comme je disais, était championne parce qu'elle avait gagné à WrestleMania. Elle battait Bayley.
Ah, Bayley revient, Bayley revient.
Revient, Bayley, c'est ça.
Il revient avant de repartir. Ouais.
Bobby Lashley était champion avec MVP à ses côtés et il battait rien de moins que Drew McIntyre et Braun Strowman, quoi.
Bon,
oui, facile.
Voilà, easy, quoi.
Ah non, et Bobby, easy, c'est Bobby, quoi.
Braun Strowman, de toute façon, les triple frites, ça lui réussit jamais. Hein.
Ouais, c'est clair. Mmh. Bobby, ouais. Et puis, alors que Bobby, lui, il est à l'aise partout et que, de toute façon, ça lui a jamais fait peur. Donc, j'ai quelques souvenirs de ce match-là, pour le coup, quoi. Donc, effectivement, ouais.
C'est déjà le début du chemin de croix pour Drew McIntyre, du coup. Braun Strowman, il s'est fait virer un peu après.
Mmh.
Et qui était le challenger de Roman Reigns ? Qui était accompagné de Paul Heyman.
Cesaro, non ?
Cesaro,
exactement. Eh ouais.
Quelle gloire de Cesaro.
Qu'est-ce qu'on s'était ambiancé, là
pour... Ah, mais carrément.
Sûrement un peu trop, d'ailleurs. Ouais.
Je suis sûr que même certains l'ont donné gagnant.
Oh oui,
27 minutes 35 de match. Pour qu'il
Clair. À l'époque, on avait Papy, il avait vignetté à mort. On avait même fait des titres hashtag push Cesaro, quoi. On était chaud, hein, à l'époque. Hein. Là, franchement, je suis en train de regarder là sur la page 2021 là, et c'est assez. Rappelle-moi, c'était mai, quoi, mois de mai 2021, quoi.
Et puis,
il se fait avoir par Rollins de mémoire.
Ouais.
Rollins qui intervient et puis après ça le lance dans sa feud avec Rollins qui va perdre et après c'est terminé, quoi.
Il était chaud, Cesaro, il avait fait sa toupie à WrestleMania, je crois qu'ils avaient montré à peu près 19.
Le UFO là, c'était nouveau, ça, UFO, on l'a jamais vu.
On n'avait jamais vu, incroyable.
Et finalement, toi, il sort une nouvelle prise que tout le monde adore. Il a enfin son match de main event et puis en fait ça lui a coûté très cher, tout ça.
Ouais, voilà.
le 7 mai 2. Ouais, vas-y.
Donc je disais, c'est là qu'ils ont dû tirer une croix définitive sur lui.
Je pense. Hein. Parce qu'après, c'est que la descente.
Ouais, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que, tu vois, je regarde sur Catch-Up, le 7 mai 2021, on titre la précision suisse avec une belle vignette du Cesaro, quoi, tu vois. Après, il y a le WrestleMania Backlash, effectivement. Et alors qu'avant, il a droit un petit peu aux vignettes et là, il disparaît après, quoi. Tu vois, il n'y a plus de Cesaro pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines à la tête de Catch-Up.
En fait, je me souviens qu'on faisait les vignettes avec Papy, à chaque fois, on essayait de mettre, tu sais, l'image de Cesaro dans Photoshop et il disparaissait. Ça voulait pas le logiciel ne voulait plus qu'on le mette sur les vignettes.
Il était contaminé par l'aspirateur à charisme de Roderick Strong.
Pour la peine, voilà un mec qui aurait quand même pas mal réussi pour un mec qui avait zéro charisme au micro, quoi. Ça c'est sûr.
Donc,
il aura quand même une sacrée carrière, hein, à WWE.
Faut pas minimiser. Allez, écoutez notre comptoir du catch sur la carrière de Cesaro, parce que franchement, on rappelle à quel point c'est un grand, grand catcheur et que sa carrière à la WWE, il faut surtout pas qu'elle soit underrated.
Non, elle est pas minimisée, oui.
Ouais, grosse carrière de tag team, notamment. Oui. Et le comptoir du catch spécial Cesaro, allez l'écouter, c'est en ligne dans les archives. Et aussi, tant qu'à faire, allez écouter notre review de Backlash 2021.
Ah oui, écoutez ça il y a un an.
Ouais, ouais, figurez-vous que c'est gratuit. Oh, alors pourquoi ne pas se plonger dans le passé du monde du catch, c'est toujours intéressant.
Plongeons.
Ah, vous pouvez retourner 6 ans en arrière, si vous voulez. Allez, on passe à ce pourquoi vous êtes tous venus. La carte de Backlash et nos pronostics pour ce week-end. Alors, il n'y a peut-être pas tous les matchs, hein, parce que SmackDown n'est pas passé. Alors, il y aura peut-être des nouveautés, on ne sait pas. Mais ce sera sûrement dans le pré-show. Parce que là, les grands absents, la division tag team féminine de Raw, hein, on n'a pas de Bianca Belair. Qui c'est qu'il y a d'autre qui est absent, bah, tout ce qui est ceinture intermédiaire,
ouais.
Hein, pas de championnat US, pas de championnat intercontinental.
24-7.
On n'en parle même pas. Hein, les tag team féminins bah, seront sûrement dans le pré-show.
Les tag team féminins, elles sont à SmackDown. À Raw. Ah, je sais plus, elles sont dans un weekly.
Merci, papy.
Heureusement que c'est là. Un des deux, le bleu, le rouge, choisissez.
Voilà, mais je crois que c'est SmackDown. Il y a une histoire comme quoi elles s'affrontent en un contre un pendant 2 semaines, puis la troisième semaine, ça sera le match active.
C'est ça, exactement. Donc voilà, ben, on va faire 100.
Comment ça se passe dans les pronos, comment, patron? Comment ça se passe dans les pronos s'il y a justement un match ou deux qui se rajoutent ce soir?
Tant pis.
Non, c'est la petite évolution par rapport au cahier du catch où effectivement après c'était gravé dans le marbre. On pouvait plus rajouter. Là, sur la plateforme de pronostics qu'on utilise, si jamais il y a un match qui est annoncé genre à SmackDown. Le samedi, on le rajoute. Donc, si vous êtes au courant, on le rajoute dans le truc de dans le système de pronos. Donc, vous pourrez revenir sur vos pronos et revoter. Parce que vous pouvez même changer vos pronos, en fait, jusqu'à la clôture.
C'est pas vrai.
Enfin, la fin
Jusqu'à 23h.
Jusqu'à 23h le dimanche. Hein, si vous changez d'avis. Mais attention, quand on change d'avis, généralement, c'est là où on se plante. Et en tout cas, s'il y a des annonces de match qui sont faites avant le show lui-même, parce que des fois, ils font des trucs pendant le pré-show. Annonces pendant le pré-show, mais on rajoutera les matchs. Ouais.
Okay. Et est-ce qu'on peut dire des choses à l'oral maintenant et voter l'inverse?
Ça fait partie de la stratégie, papy.
Giscal
faisait toujours ça. Giscal faisait toujours ça. Il annonçait des pronos.
Giscal le traite.
Donc pendant la review de SmackDown, on peut annoncer des pronos totalement inverses à ce qu'on a voté en fait dans le module.
Ah, je vous invite même à dire à mentir. Tout le temps, dans la vie, tous les jours.
Okay.
C'est le catch, hein, on est là pour worker tout le monde.
On fait semblant d'y croire, hein, n'oubliez pas.
Ça va worker CV à catch-up, moi je vous le dis.
Et s'il y a un nouveau match qui se rajoute le week-end et que le gars qui doit s'occuper de mettre les matchs, il est parti en week-end dans les Vosges ou un truc comme ça, comment?
T'as réservé quoi? Un petit chalet?
Un petit chalet
sans la 3G?
Bon, on en discutera.
Oui, ça veut dire, on va s'organiser.
Sinon on sous-traitera les rebuts du catch s'en occuperont.
Ah, c'est plaisir.
La carte de Backlash 2022. Allez, le premier match, pourquoi pas Bobby Lashley contre Omos qui est désormais accompagné d'MVP. C'est la suite, hein, c'est la revanche de WrestleMania où Bobby Lashley avait déjà battu Omos, mais Omos ne s'avoue pas vaincu. Omos, il est grand, il est fort, il va pas s'arrêter là. Il a fait un concours de bras de fer, ça n'a rien donné. Bobby Lashley est décidément invincible. Bobby Lashley, hein, qui a été énormément apprécié par le public parisien au show de Bercy. Vous y croyez à la victoire d'Omos, tonton, vas-y, annonce.
Non, moi je crois à la victoire de Bobby.
Bobby.
Je donne le Bobbinator vainqueur. Je pense que je le sens comme ça, là. Je sens le Bobbinator. De toute façon, le Bobbinator, je le sens sur un été très puissant et sur un beau SummerSlam qui l'attend. Je sais pas pourquoi, là. Moi, je le sens. Moi, pour moi, là, il fait ses deux plus belles années en solo. Il est hyper over. On en a parlé avec le patron à Monday Night Raw. Il a fait encore une belle apparition et encore avec le public de Greensboro était chaud bouillant avec lui. Donc, écoute, moi, je crois à Bobby, donc je vais voter Bobby.
Ouais, Bobby, si c'est pas maintenant, c'est jamais. Papy?
Ouais, les arguments de tonton se tiennent. Effectivement, Bobby semble énorme en ce moment, invincible. Il a tellement cartonné au show de Paris. Là, franchement, Bobby, il est vraiment au-dessus de tout le monde, invincible. Donc, du coup, je vais voter au Mox.
Il a tout compris, mais oui.
Je la sentais venir.
Là. Et sur Twitter, pour l'instant, nos tweetos de catch-up, ils votent du 5. C'est du 50-50 pour l'instant, Bobby Lashley au Mousse.
Parce qu'en plus, elle a lancé des sondages. Oh là là, mais.
Ouais, j'ai lancé les sondages. Ouais. Direct.
Et. C'est incroyable cette émission.
Et ben moi surprise, pour moi, j'ai mis mon nul ou autre.
Ah, super, t'as commencé bien. Ah,
c'est pas mal ça, c'est pas
moi,
cool.
Je les vois bien se taper sur la gueule pendant plus de 10 secondes à l'extérieur du ring.
Oh là là, c'est nul ça.
Bah, j'ai mis nul ou autre.
T'as raison, c'est nul.
Donc c'est nul. Voilà, voilà, je les vois bien. Après, ça veut dire que ça continue pas, mais. Ouais, ouais, je les vois bien se mettre sur la tronche, moi.
Personne ne voit MVP du coup gagner.
MVP gagné, non. Ouais, moi je sais plus ce que j'ai mis. J'ai fait ça en à peu près une minute, les pronos. Mais effectivement, le nul ou autre me paraît une bonne simulation. Même je pense que quand même c'est Bobby Lashley qui va gagner d'une manière ou d'une autre. Donc je donnerai ma voix à Bobby.
Menteur.
Pauvre Omos.
On peut les mettre sur la table, voilà. Ah oui. C'est bien du ringside ça.
Voilà. C'est délicat, hein, parce qu'on a un Bobby Lashley, un bas de table et un Omos qui est censé être pushé, là. Mais je crois qu'ils vont l'enterrer, Omos.
Oui, oui.
Allez pour Bobby. Allez pour Bobby. On enchaîne. Autre singles match. Alors, celui-là, on l'attendait depuis un moment. Tout simplement, Happy Corbin contre Madcap Moss. Donc, souvenez-vous, Happy Corbin a trahi Madcap Moss après sa défaite à WrestleMania face à Drew McIntyre. Il a passé Madcap Moss à tabac, il lui a volé son trophée du André le Géant Battle Royale, parce que Madcap Moss a gagné la bataille royale d'André le Géant. Donc voilà, on est fâché, on se tape dessus, on se fait souffrir. Moi je vais donner la victoire à Madcap Moss, mon bon Yerem, comment tu vois ça?
Quoi même? Alors moi jamais je ne voterai contre le baron contre Happy Corbin. Non, c'est pas possible.
La loyauté
jusqu'au bout. Non, pour moi, c'est Happy Corbin qui va se débarrasser voilà, de ce traître de Madcap Moss, là, de ce moins que rien, là, qui a vécu de façon, en plus, ne faisait rire plus personne, il faut le dire. Rien que pour ça, il mérite d'être châtié.
À aucun moment, il n'a fait rire quelqu'un.
Oui, mais au début, on avait un peu voilà, de bienveillance. Il fait, ah ouais, là, il essaye au moins, il essaye. À la fin, il essaye même plus d'être drôle.
Non. C'est vrai. On se demande où il va aller d'ailleurs. Alors, ils ont viré tellement de monde, mais Madcap Moss, il est là. Tonton ?
Écoute, moi je vais donner Madcap Moss quand même. Je vais donner Madcap Moss. Il est dans sa. Depuis qu'il est la tournée Babyface, là, il a besoin d'une grosse victoire en pay-per-view. Bah, donc, c'est la bonne occasion. Et du côté des tweetos, il donne 78% pour Madcap Moss. Donc, largos en tête.
Ouais, il est tous derrière le Babyface. Papy, est-ce que tu
Moi je suis comme le patron, hein. Je ne peux pas voter contre Happy Corbin et donc du coup je vais voter pour Madcap Moss.
Voilà, exactement.
Insupportable.
La logique implacable de Papy.
J'ajoute par DQ. Voilà.
Par DQ. Voilà.
Avec DQ. Ouais.
Avec DQ. Un bel avenir pour Madcap Moss. Il faudra quand même qu'il change de look à un moment donné ou qu'il fasse quelque chose, mais c'est délicat quand même. Un autre match simple. Alors cette fois-ci, là, on sort l'artillerie lourde. Hein. Deux big stars. Rien que moins que AJ Styles contre Edge avec Damien Priest qui ne sera pas là puisqu'il est banni des abords du ring. Je vous rappelle qu'il y a un nouveau clan qui s'est formé entre Edge et Damien Priest qui s'appelle Judgment Day. Edge, c'est devenu un peu le nouvel Undertaker. Le directeur des forces obscures. Et il a avec lui Damien Priest qui est un peu son apprenti. Hein, voilà, son padawan du côté obscur. C'est aussi une revanche de WrestleMania, hein, si je dis pas de bêtises. Styles contre Edge. Alors, à qui va-t-on donner la victoire, sachant que la dernière fois, c'est bien Edge qui a gagné grâce à Damien Priest qui était venu se pavaner aux abords du ring. Papy ?
Oui, et donc là, il ne pourra pas faire la même chose vu qu'il n'a plus le droit d'aller se pavaner aux abords du ring. Donc, comment il va faire ? Alors, du coup, comment AJ Styles va être surpris pour perdre, hein, ou pas ? Donc, en théorie, vu qu'il n'y aura pas Damien Priest pour le déconcentrer, AJ Styles va s'imposer. Du coup, je vais voter Edge. Avec une intervention de quelqu'un d'autre, parce que Damien Priest est banni de ringside, ça veut dire que Edge va devoir mettre quelqu'un d'autre pour intervenir en sa faveur.
C'est ça.
Alors, j'hésite encore entre Ciampa et Finn Balor. Je mets quand même une pièce sur un des deux.
Ouais. Finn Balor, rappelons-le, qui est venu aider AJ Styles.
Oui, donc il a aidé, c'est pas bon signe.
C'est pas bon signe.
Ce sera Ali, tu vas rien comprendre, ce sera Mustapha Ali.
Si c'est Ali, je suis sur le cul.
Ouais, alors là, pas mal. Ouais. Il y a des candidats pour venir rejoindre Edge. Finn Balor, il connaît le côté obscur aussi. Hein. C'est le démon, hein, rappelez-vous. Voilà. Est-ce que le Bullet Club va tenir, sachant que AJ Styles et Finn Balor, ils ont tous les deux leaders du Bullet Club, mais ils n'ont jamais été ensemble au Bullet Club au Japon. Que c'est AJ Styles qui avait viré Finn Balor du Bullet Club pour prendre sa place de leader.
Oh.
Voilà toute la fameuse histoire du Japon. Tonton, qui tu donnes gagnant toi?
Moi je donne AJ, j'adore cette rivalité. Hein. Là, franchement, moi c'est un gros kiff de Monday Night Raw. De toute façon, en ce moment, Monday Night Raw c'est un gros kiff. Et ça fait partie des super rivalités, super storyline, gros match à venir. Je suis emballé. Le thème song de Edge, je ne m'en remets pas. Je crois que je l'écoute tous les jours en ce moment. j'adore quoi. Et bah écoute, moi je vais donner Edge. Et du côté des Twittos catch up, il donne Edge. Mais alors par contre, c'est short. Hein, c'est à 53% pour Edge.
Ah ouais. On dirait un résultat d'élection présidentielle.
Oh oui, on n'en est pas loin. Ouais. Mais moi aussi, je vais donner Edge quoi quand même. Quoi. Je pense la victoire du Babyface sur ce coup-là. Mais j'ai hésité sur le nul ou autre pour ne rien cacher.
Je pense qu'on a l'histoire avec effectivement l'arrivée potentielle d'un troisième membre, étant donné que Damien Priest est interdit du ring. Et d'autant plus que prochain pay-per-view, chers compatriotes, c'est Hell in a Cell.
Ah,
rivalité, elle faut qu'elle se retrouve dans une cage de l'enfer.
Qui c'est qui aime bien les cages de l'enfer?
Oui, qui d'autre que Judgment Day et Edge, voilà, pour aller continuer. Alors, du coup, par contre, le résultat, je trouve que c'est plus compliqué, toi. Hein. Je vais mettre Edge, je vais faire comme Papy qui dit qu'il va voter à gauche et qu'il vote à droite. Donc je vais mettre aussi Edge de mon côté, mais je suis aussi comme Tonton, je trouve que cette rivalité est vraiment super à suivre. Donc on est vraiment impatients de voir la suite.
Ouais, exactement. Je vous rejoins et je vais aussi donner la victoire à Edge. Bon, c'est lui la grosse star, AJ Styles, il est là pour se faire rouler dessus un petit peu. le but, c'est de monter le Judgment Day, hein, tout simplement. Donc, on espère qu'il y aura des nouveaux membres et tout ça. Ça y est, hein, ils ont assimilé le truc de la All Elite Wrestling de faire des clans un petit peu à la WWE. Hein. On a ce clan-là, on en a d'autres qui se construisent un peu
partout. Le clan des virés, là, tous ceux qui sont fait licencier, là, déjà ça forme un beau clan solide.
Ouais, ils sont nombreux, ceux-là.
Oh, oui.
Le jour où il y aura le Rumble, ils auront leur chance. Enchaînons, tiens, on parlait de la All Elite Wrestling. Le fils prodige, de retour. Cody Rhodes, revenu à WrestleMania. Et ben encore un match retour de WrestleMania. Il n'y a que ça, hein, quasiment. Cody Rhodes affronte Seth Rollins. Donc ça aussi, une très belle rivalité. Hein. On joue sur l'historique des deux catcheurs. Seth Rollins, un peu le fils spirituel de Dusty Rhodes. Cody Rhodes, le fils légitime de Dusty Rhodes.
Et encore, hein, on se posait des questions. Enfin, voilà, c'est pas.
Ouais, on sait.
Il y a des rumeurs. Allez
savoir. Randy Savage n'était pas loin. Donc, qui c'est qu'on donne gagnant? On a une victoire de Cody Rhodes à WrestleMania. Cody Rhodes qui mâche sur l'eau un petit peu. Retour du Messi, il est en direction de la ceinture ultime de toute façon, on le sait très bien. C'est Seth Rollins, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il va laisser sa place? Est-ce qu'il va réussir à humilier le revenant? Tonton, toi qui adore.
Écoute, Cody est donné largement vainqueur par notre Twittos à 80%, tu vois.
Okay.
Et moi, je pense comme ce que tu viens de résumer parfaitement, c'est-à-dire que Cody, là, il est lancé sur une espèce d'autoroute du main event qu'il n'a certainement jamais connu à la WWE. Et que il profite du méga professionnel qui est notre ami Seth Rollins pour faire une rivalité aux petits oignons, encore un kiff absolu à Monday Night Raw. Je ne m'en sors pas chaque lundi soir tellement c'est bon. Mais moi je vais suivre les tweets aussi parce que moi aussi je vais donner comme vous peuple le catch-up, je vais donner Cody.
Patron.
Ah bah c'est pareil, c'est comme AJ Styles et Edge, c'est des belles histoires qu'on veut voir continuer encore là quelques semaines.
Ouais.
Et du coup, le problème, c'est qu'à chaque fois, moi, je vois deux scénarios. Une bonne raison pour que le gentil gagne et que ça continue, et une bonne raison pour que le méchant gagne et que ça continue. Donc, je suis toujours emmerdé. Donc bah là, moi, j'ai choisi Seth Rollins, mais plus par envie de redonner un peu aussi de... Voilà, Seth Rollins, il a été gentil là, de se coucher pour l'arrivée de Cody Rhodes. J'aurais envie là de le voir aller prendre ce match-là pour équilibrer les débats, mais cette rivalité va sûrement se jouer sur un côté plus psychologique après ce pay-per-view. Donc voilà, il pourrait aussi ne pas gagner et après se dire bah finalement je peux gagner avec le combat psychologique peut-être. Mais bon, je vais rester sur Seth Rollins.
Ok, papy.
Ouais, papy, c'est des raisons intéressants. Cody qui est vraiment le comment dire le la nouvelle un peu pépite de la WWE, est-ce que du coup ils vont le ternir en le faisant perdre? Je pense pas. Cody, il faut qu'il ait un règne d'invincibilité, donc normalement il faut qu'il enchaîne les victoires. Bon, donc du coup je vais voter Seth Rollins.
Ouais. Aïe, ouais, c'est chaud, hein. Mais je vois quand même mal Cody Rhodes prendre une défaite tout de suite. Par contre, je le vois bien repartir en civière après qu'il soit fait attaquer par Seth Rollins après sa victoire. Je pense que Seth Rollins, il va faire un sale truc.
Ah oui, bah, évidemment, il va faire un sale coup.
Là, il faut qu'on passe à la dernière vitesse avant.
Intervention de l'hologramme de Cody Rhodes en trois dimensions.
Ouais, quelque chose comme ça, une saloperie. Mais bon, je vois pas Cody Rhodes perdre quand même. Allez. Cody Rhodes gagnant. Ce qui aurait pu être le main event, mais qui ne le sera pas, je pense. Enfin, on sait pas. L'heure actuelle, peut-être un peu flou. C'est un 3 contre 3 qu'on nous propose. Drew McIntyre et les RK Bro, Randy Orton et Riddle, qui sont au top de leur popularité, affrontent d'autres personnes qui sont au top de leur popularité. C'est Roman Reigns et les Uso. Voilà, le champion undisputed Roman Reigns, les champions tag, les Uso, Randy Orton, RK Bro, les champions de Raw de l'autre côté, accompagné de Drew McIntyre, le vice-champion. Ça devait être normalement l'unification des teintures tag team, mais finalement ce ne sera pas le cas, ce sera du 3 contre 3. À qui qu'on va donner la victoire, Papy?
Bonne question. Moi, je reste sur mon idée qu'ils auraient dû mettre un winner take all, histoire de rajouter encore plus de piment à cette rivalité. Alors, ils vont peut-être refaire un rematch derrière, hein, ça serait cool. Par contre, ouais, quand t'as la Bloodline qui s'aligne, difficile d'imaginer autre chose qu'une victoire pour eux. Mm. C'est pour ça que je vais voter pour
Drew McIntyre et
RK Bro.
Ok, l'inusable logique, l'implacable logique, Irem, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, bah la Bloodline, hein, ils marchent sur le monde et là pour moi ils vont ressortir vainqueurs de ce qui pour moi va être le main event. Tu te poses la question, je pense que ça va être le main event quand même.
Oui.
Ouais, au final, après mûre réflexion, c'est fort possible que ce soit le main event en fait. De toute façon, Roman Reigns, il fait le main event maintenant. Mm-hmm. C'est fini, les moments où on hésitait, etc. etc. Voilà, moi je vais aussi donner ma victoire à la Bloodline. Tonton, t'as pas parlé, je crois.
J'ai pas parlé, bah écoute, moi je donne ma victoire à la Bloodline aussi. Hein, j'ai presque envie de dire sans surprise, mais sur les dernières reviews faites, voilà, il n'y a pas photo quoi. Mais par contre, tu vois, bah, sur le tweet, c'est pareil, il y a plus photo que ça, quoi, parce que c'est les RK Bro qui sont les vainqueurs à 55%.
Ok.
Mais moi, pour moi, vraiment, je vois pas la Bloodline, je vois pas Roman Reigns. Je pense que Matt Riddle est là pour prendre le pin. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal à imaginer Roman Reigns partir vainqueur. Et Roman Reigns, alors là, on est à 620 jours de règne, etc. Mais le mec, ils ont décidé de le faire champion pendant 4 ans, je crois, là.
Ça y ressemble en tout cas. En plus, maintenant, il a deux ceintures, donc il peut en perdre une.
Alors, sur Roman, j'ai lu un truc très sympathique. C'était, il parlait de quand il est arrivé à la FCW, etc., et qu'il bossait avec Dusty Rhodes. Et la première fois que Dusty Rhodes l'a vu faire une promo, catcher un peu, etc., il lui a dit, Il s'est tourné vers Dusty Rhodes et il lui a dit, ouais, je suis un mec qui vaut $1 milliard, quoi, qui vaut un chèque $1 milliard, quoi. Et Dusty Rhodes, il l'a regardé et il a dit, on va en reparler et voilà. Et après, depuis 620 jours. Et donc, rest in peace Dusty Rhodes, mais je pense qu'effectivement, quand il doit regarder de là-haut le Roman Reigns, il doit se dire, waouh, ce jeune avait raison.
Il regarde pas l'AEW, lui.
Il n'a pas le temps. Moi, Roman Reigns, il m'a dit qu'il m'aimait. Donc,
Je
vais être jaloux. Allez, on va vers ce qui, dans ma tête, était le main event, mais c'est parce que j'avais bu.
Oui.
SmackDown Women's Championship, un I Quit match. La championne Charlotte Flair affronte Ronda Rousey. Ronda Hot Rod Rousey. C'est imprononçable son nom, celle-là. Bon, qui va gagner, Charlotte ou Ronda? La parole est à Irem.
Alors là, franchement, j'en sais rien du tout. En plus, j'ai pas été à fond sur SmackDown, donc je suis pas.
C'est un rematch de WrestleMania.
Ah oui, voilà, bien sûr.
La victoire, Charlotte.
Mais cette stipulation-là.
Ils ont torturé Drew Gulak.
Ouais. Non, mais je vois ce qui s'est passé, mais je l'ai pas senti du coup. C'est surtout là, cette stipule à Quit Match, c'est difficile. Hein. En soi, là, comme ça, tu vois aucune des deux dire j'abandonne.
Donc, ce sera pas Ronda en tout cas. Hein.
Ah non, donc effectivement, moi je vote Ronda, mais je suis très curieux de voir d'entendre une des deux prononcer ces trois mots. Deux mots, ouais. Parce qu'elle dit pas match. I quit match.
il va falloir qu'ils nous sortent un bon scénario. Papy,
Peut-être qu'elles vont le dire ni l'une ni l'autre, finalement. Ce sera peut-être ça l'histoire, et que ce sera nul ou autre. Peut-être que ça sera ça. Peut-être que la logique, Ronda va se venger de WrestleMania et faire I quit à Charlotte. Donc du coup, je vote Charlotte en victoire et peut-être qu'elle gagnera en utilisant des grosses ficelles qu'on a déjà entendues, type le métophone ou je ne sais quelle connerie.
Ah, et puis l'arbitre, ce sera encore l'autre traître. Là, qui...
Parce qu'entre l'arbitre, le goulag et tout ça, il y a comme moyen de...
Ah là là, le malin, papy. Il a tout compris déjà, il a tout écrit à l'avance. Tonton, il t'a mâché le boulot maintenant, tu peux donner le... ton prono.
J'hésite. Vous avez donné quoi? T'as donné quoi, papy, là?
On a fait Charlotte, moi.
Ouais. Toi, t'as donné Charlotte, papy? Ah ouais, papy, quand même, Charlotte, quoi. D'accord, ok. Bah, moi, je vais quand même donner Ronda. Hein. J'arrive pas à donner autre chose que Ronda. Pour moi, c'est compliqué, quoi. Parce que je trouve que Charlotte, elle mérite de continuer son règne. C'est assez étrange, en fait. Je suis vachement partagé. Parce que moi, j'adore Ronda Rousey. Voilà, je fais partie des fanboys de Ronda Rousey. Mais et j'aimerais bien l'avoir avec le titre là. Mais moi je pensais que c'était à WrestleMania qu'il fallait qu'elle le prenne le titre. J'étais assez surpris de la décision prise et à la fois je reconnais que je trouve que Charlotte a fait un beau règne, que ce qu'elle nous montre à SmackDown, c'est un des meilleurs moments des SmackDown en général, que je trouve beaucoup plus faible que Raw ces derniers temps. Et je trouve que Charlotte elle délivre la marchandise et j'aurais bien aimé l'avoir continuer sur un long règne aussi, un peu l'avoir un peu sur un truc un peu plus long. Ronda elle peut dans le futur arriver, elle est là pour un moment apparemment là, donc il faut en profiter. Donc mais bon, je vais voter avec le cœur, je vais voter Ronda et je regardais sur nos tweetos, c'est nos tweetos, ils votent Ronda à 68%.
Charlotte, elle porte un peu Ronda d'ailleurs depuis.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Retour.
On en a déjà parlé ensemble plein de fois dans les reviews de SmackDown. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. C'est Charlotte qui porte, c'est Charlotte le ring général. C'est Charlotte qui porte le micro. Et ça là-dessus, alors là, il y a aucun doute possible.
Bravo Charlotte.
Oui, clairement.
Moi, je suis convaincu par Papy. Je veux sans venir en fait la grosse manigance. Charlotte Flair gagnante par tricherie et par magnétophone interposé. Ronda, elle prendra la ceinture dans un plus gros pay-per-view.
Oui, ça viendra un jour.
Ouais, je suis assez d'accord avec cette analyse, donc tu comprends pourquoi j'ai du mal à j'ai du mal à voter sur ce match, quoi.
Il y a du suspense un peu sur tous les matchs, c'est ça qui est bien. Est-ce que vous êtes IP du coup pour ce pay-per-view? Quel est votre taux de hype sur 10? Je vais piquer aussi un autre concept des autres. Tonton, par exemple.
Bon, mon taux de hype, oh, il est pour un pay-per-view intermédiaire, donc c'est pas comme sur le Big Four où peut-être aussi je mettrais dans le Big Four, je mettrais le Money in the Bank aussi, qui est quand même un pay-per-view particulièrement spectaculaire dans l'année. Mais je lui mette un bon set, quoi, quand même, quoi. Mais je vais pas aller plus haut parce que pour moi, tu vois, c'est quand même une tristesse de pas avoir le titre intercontinental, pas avoir le titre US. Enfin, tu vois, il y a des ceintures quand même pour moi qui manquent. Le titre intercontinental, ça commence à devenir quand même sacrément problématique. Il a pas été défendu depuis une éternité en pay-per-view. Ricochet l'a repris là et ça, je trouvais que ça allait mieux en weekly. Mais bah n'empêche qu'il y a toujours pas de match de pay-per-view. Donc c'est un petit peu tristounet ça, mais le taux de hype est quand même fort. Là, tu vois, en plus on est chaud là, on a une semaine magnifique à catch-up. Donc ça va être un joli set quand même.
Joli set. Papy ?
Ouais, j'étais entre 7 et 8, moi. Pas parce que ce pay-per-view, cette carte m'emballe plus que ça, mais c'est surtout qu'en fait, les weeklies sont tellement sympas en ce moment, avec tellement d'idées et fraîches, que je me dis qu'ils vont peut-être continuer sur ce truc-là et nous offrir un pay-per-view un peu dans les lignées de Mania, d'ailleurs, qui est aussi très frais par rapport à ce que c'était tapé avant. On a vu un mauvais début d'année et là il y a du mieux depuis Mania, donc je suis optimiste là-dessus. Après, pour ceux les absents, moi je te crois que ça me touche une sans faire bouger l'autre.
Je te reconnais bien là. El Patron.
Ouais, je vais donner, c'était pareil entre 7 et 8. Voilà, je vais donner un gros 7. Je vais donner un gros 7. Pas tant, voilà, on a une carte qui est bien bien solide et surtout il y a beaucoup de matchs pour lesquels je suis très curieux de voir la finalité et ce qui va suivre derrière. Il y a plein d'histoires là qui sont en train de s'écrire sous nos yeux. C'est grâce notamment au Weekly qu'a cité Papy. Et puis voilà, on sait que c'est que des superstars qui sont là, qui vont délivrer la marchandise. Donc on va avoir des super matchs, un point douté, avec en plus derrière des enjeux scénaristiques que je trouve assez, assez intéressants, assez importants. Donc c'est un gros set. Non
gros set. Ouais. Moi, je vais mettre que 6 quand même. Je vais garder mes points pour la prochaine fois parce qu'on est quand même sur pas mal de redites au niveau des matchs. À eux de me convaincre. C'est tout. Mais la VVE est pleine de surprises sur les Premium Live Event, comme on dit maintenant. Ouais. Des affiches un peu... C'est un peu trop redites de vrai seul manière.
C'est Backlash.
C'est la revanche.
C'est le principe de Backlash, c'est l'endard des redites de vrai seul manière.
Ah, je pense que l'année prochaine, tu vas être triste aussi. Hein.
Les autres années, enfin avant l'année dernière, etc., on avait quand même généralement des gens qui n'avaient pas pu être à WrestleMania, qui venaient, qui faisaient des plus gros matchs, etc. etc. Là, c'est vraiment, ça tient le concept hein, jusqu'au bout. La revanche de WrestleMania. Bon, bah, on verra ça. C'est dimanche, WrestleMania Backlash, sur le WWE Network, commenté par Christophe Ajus et Nadir Mohamedi, à l'horaire habituel. Alors, je ne sais plus si c'est 1h ou 2h du matin, mais vous trouverez. Voilà, bah écoutez les amis, on a fait le tour de la question hein. On n'a pas de top flop et de notes puisque c'est le pré-show. On va gentiment dérouler l'auto-promo, mais bon, on vous en a déjà parlé et reparlé. On est sur YouTube, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, on est sur Clapping TV désormais. Vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter, c'est @catchupcdc. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram où on vous a déroulé les photos du show de Bercy. On est sur quoi d'autre ? Sur Discord. L'invitation est dans la description pour venir discuter avec nous. Voilà, allez écouter nos archives en ligne. Mon bon tonton, merci beaucoup d'être venu.
Écoute, c'est moi qui te remercie, mon ignoble Ringside. Ça fait super plaisir de reprendre l'antenne de catch-up avec toi, surtout dans une semaine historique pour la chaîne. Donc vraiment un gros pré-show retour. Je crois que c'est la première fois dans mon histoire de la chaîne que je participe à un gros pré-show, tout simplement. Et donc c'est carrément cool, c'est fun d'avoir encore des premières fois à la chaîne catch-up. Donc c'était un plaisir d'être en Fatal 4-Way et une belle équipe. Et écoute, à la prochaine.
À la prochaine, toute première fois, plaisir partagé, tout ça en même temps. El Patron, merci beaucoup d'être venu.
Bah merci à toi d'être revenu, comme l'a dit Anton, ça fait plaisir de te retrouver à l'antenne, en plus pour ce pré-show, là, cette émission qui aide à bien s'ambiancer. Là. Je suis content, je trouvais que c'était une émission qui nous manquait un petit peu, effectivement, de se retrouver comme ça, là, à quelques encablures, à quelques journées, quelques heures du pay-per-view. En plus, tu nous as offert un tour du monde de ce qui se passe dans l'univers du catch. Donc, bah, merci à toi et on se retrouve là très très vite. Hein. Tu t'en vas pas, hein?
Je m'en vais pas, je reviens assez rapidement. Il faut marquer le coup avant chaque pay-per-view. Et rien de mieux que de marquer le coup avec mon bon papy. Merci beaucoup d'être venu, papy, également.
Bah, merci, Ringside, de m'avoir invité pour ta première et ton retour. Et je me joins aux compliments de mes collègues. C'est vrai que c'est très... Alors, j'ai déjà utilisé le terme tout à l'heure, mais rafraîchissant, en tout cas, c'est vrai, d'enregistrer ce type d'émission où, finalement, bah, on divague un peu sur ces histoires de pronos, sur ce qui se passe dans le monde du catch et tout. Voilà, on n'est plus tenu par les Virman et les segments repeat d'Euro, quoi.
Voilà, c'est ça. Un peu prendre du recul sur l'actualité. Et voilà, le grand retour du pré-show, c'est ça qu'il faut à catch-up. Et surtout en espérant que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer, hein, de toute façon. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si ça vous a plu, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être averti dès qu'on a un contenu, et vous avez compris qu'il y en a beaucoup. Tout ça, c'est gratos. Voilà, bon week-end à vous, bon WrestleMania Backlash, et à bientôt les amis, ciao ciao, bye bye.
Salut à tous. Bye.
Salut la team et salut peuple de Gacheux. Oh, j'ai trouvé mon maître.
T'es aspiré dans le trou noir quand tu
le trou de barbe. Charisme l'aspirer aussi, ça y est.
On le sent qu'il chute, dégaïfé ce mec.
On le sent tomber.